sur Radio Bus, vous écoutez la radio la plus rapide. Radio Gymnase de Nyon, 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 Nyon.
Bonsoir à tous, aujourd'hui on se retrouve avec
LMR,
Gabriel,
Xavier et moi-même Noah.
Alors LMR, comment s'est passée ta semaine ?
C'était pas trop mal, mis à part les nombreux maux de tête. Heureusement, j'ai pu continuer à faire du sport chez moi, mais je dois te l'avouer, ce qui m'a le plus manqué, c'était la nourriture. Du coup, aujourd'hui, en revenant, j'ai mangé deux gros tacos, et je dois t'avouer, je me sens pas top.
Ouais, bah, c'était peut-être pas la meilleure idée. Tu seras sûrement malade.
Ouais, je commence à déjà avoir un peu mal au ventre.
Bah, c'est ça de manger trop d'un coup.
Mais ça va, je peux me le permettre, on est plus au Moyen-Âge.
Ouais, et à la fin de cette époque, la peur des poisons prenait de l'ampleur, et le piège, c'était justement la gloutonnerie.
T'aurais pu te faire avoir en faisant ça à l'époque, vu comment tu manges beaucoup.
Mais de toute façon, aujourd'hui, c'est plus très courant et on a la médecine au pire.
Avant non, du coup, ils mangeaient des figues et autres pour ne pas avoir trop faim dans les banquets.
Et à cause des poisons, pour pouvoir les sentir, toutes les nourritures goûteuses étaient déconseillées.
Donc adieu les tacos, les chinois et tout le reste à la mer. À l'époque, les médecins avaient écrit des traités pour éviter de se faire empoisonner, rituels, détections, etc.
Ah ouais, mais j'ai quand même envie de pouvoir manger à ma faim. Comment ils faisaient avant pour pouvoir se rassasier? C'est pas trois figues qui me suffiraient, moi.
Pas besoin d'être traité pour ça, ils avaient une super technique pour parer les poisons, les goûteurs. Et aujourd'hui, LMR, c'est toi notre goûteur.
Mais attends, c'est quoi ça?
T'inquiète, c'était juste des gens qui goûtaient les plats avant le repas pour voir s'ils étaient empoisonnés.
Comment ça t'inquiète? Mais s'ils l'étaient?
Eh bah, je te laisse deviner, hein. Les animaux de compagnie aussi pouvaient servir de goûteurs.
Ah ouais, alors j'ai vraiment de la chance de ne pas être né au Moyen-Âge.
Ouais, comme nous tous. Si les poisons étaient toujours d'actualité, presque un tiers de la population mondiale aurait été touchée.
Ah bon ? Pourquoi ?
Parce que plus de 2 milliards de personnes dans le monde sont touchées par le surpoids ou l'obésité. La gloutonnerie était peut-être un problème à l'époque, à cause des poisons. Aujourd'hui, elle l'est pour des raisons de santé publique.
Ouais, c'était pas la technique la plus courante. Ils utilisaient aussi des objets comme des bouts de fossiles ou des cornes de licorne qui devaient détecter la présence de poisons.
Beaucoup de superstitions pour y croire. Des cornes de licorne, mec?
Ouais, beaucoup croyant en la magie ou la sorcellerie.
Mais je comprends pas comment des cornes de licorne pourraient être utiles.
En gros, selon d'anciens mythes, l'eau empoisonnée pouvait être purifiée en entrant en contact avec une corne de licorne. Plus la corne était grande, plus elle avait de la valeur.
Ouais, la mentalité a bien changé, mais l'idée reste.
Bah jusqu'à pas longtemps, on voyait encore plein de pubs pour des programmes minceurs ou des régimes miracles, mais je suis pas sûr qu'il fallait beaucoup moins de superstition pour y croire.
Ouais, la différence, c'est la médecine. Avant, elle était pas très avancée, et la plupart des médecins passaient leur temps à prouver que ces théories sur la sorcellerie étaient vraies.
Ouais, et s'ils s'inspiraient en fait des médecines antiques. Il y en avait quelques-uns qui essaient d'évaluer si les techniques qu'on vient de mentionner étaient vraiment efficaces, mais pas beaucoup.
Ah ouais? Donc, avec un niveau pareil, si quelqu'un était empoisonné, il savait pratiquement aucune chance de s'en sortir?
Non, aucune.
Mais maintenant, on aurait des chances. On mourrait pas, on est d'accord?
Non, t'inquiète, la médecine a bien évolué. On connaît les poisons et les remèdes utilisés pour ce genre de situation. D'ailleurs, à l'époque, elle commençait aussi à évoluer, et les scientifiques commençaient déjà à douter de certaines méthodes superstitieuses, comme celle de la corne de la licorne, mais c'était un peu plus tard, bien évidemment.
Ouais, mais beaucoup recommandaient la prévention, comme aujourd'hui, pour éviter les problèmes. Donc ils gardaient les mythes autour du poison pour dissuader les gens de baisser leur garde.
Ah d'accord, et la médecine continue un peu de faire ça?
Ouais, sans doute, mais bon, on le saura plus tard.
Mais donc s'ils maintiennent des mythes, c'est pour éviter des problèmes. Ça veut dire que je pourrais quand même en avoir et mourir.
Non, t'as juste trop mangé, mais si tu continues à poser des questions, c'est moi qui vais empoisonner tes prochains McDo.
Ouh. Merci à Actuel Moyen-Âge pour ces super infos, et on se retrouve juste après Gangnam Style de Psy.
Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. 낮에는 따사로운 인간적인 여자, 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자, 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자, 그런 반전 있는 여자. 너는 선어해, 낮에는 너만큼 따사로운 그런 선어해. 커피 식기도 전에 원샷 때리는 선어해. 밤이 오면 심장이 터져버리는 선어해. 그런 선어해. 아름다워, 사랑스러워, 그래 너, hey! 그래 바로 너, hey! 아름다워, 사랑스러워, 그래 너, hey! 그래 바로 너, hey! 지금부터 갈 때까지 가볼까? Go, 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 go! 오빤 강남 스타일. 강남스타 오빤 강남스타 여자 가렸지만 웬만한 노출보다 야한 여자 그런 감각적인 여자 나는 선어해 점잖아 보이지만 놀 땐 노는 선어해 내가 되면 완전 미쳐버리는 선어해 근육보다 사상이 울퉁불퉁한 선어해 그런 선어해
와우 superbe la chanson.
Ouais ouais, on l'avait apprise à l'école.
Ah bon? Je m'en souviens plus.
C'est normal, t'as jamais vraiment prêté attention à ce qu'on faisait.
C'est vrai que moi à l'école, j'ai jamais trouvé que ça matchait.
Mais pourquoi tu continues de venir alors?
Bah elle a pas vraiment le choix s'il veut avoir un avenir quoi.
C'est vrai que même si des fois on n'a pas envie d'y aller, c'est quand même bien utile.
Et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui notre prochaine chronique est justement sur l'école.
Ah, que du plaisir, aller à l'école pour parler de l'école.
Moi en vrai je trouve ça marrant de comparer les choses avant, après, surtout un truc dans le genre qui a vachement d'importance dans notre vie en vrai.
On pourra voir si c'était mieux avant.
En fait, on va parler des profs. Je pense que les profs ont vachement changé depuis le temps.
Ouais, ça c'est sûr. Et je peux vous assurer qu'ils sont d'un bien meilleur niveau maintenant qu'avant.
Et en fait, on va parler plus précisément des devoirs des profs au XVIIIe siècle.
C'est vrai que l'école est ancienne, hein. Elle arrive vers le Moyen-Âge environ.
Ouais, mais à l'époque, il n'y avait pas vraiment d'organisation. C'était juste des parents ou des pasteurs qui apprenaient des trucs de base, comme l'écriture ou la religion à quelques personnes.
Et c'était pratiquement toujours des cours individuels rémunérés par les parents.
Et depuis le début, avec les pasteurs qui donnaient des cours jusqu'au début du 19e siècle, c'était surtout dirigé par l'église et on appelait les profs des régents.
Les instituteurs, eux, ne font pas partie de l'église par contre.
Oui, effectivement. Et les instituteurs arriveront vers le 18e siècle en Suisse et c'est à ce moment-là qu'apparaissent les cours collectifs parce que ce n'est plus seulement les bourgeois qui ont droit, mais c'est plus généralement l'ensemble de la population qui commence à s'instruire.
Et finalement, c'est vers la moitié du 19e siècle, avec la professionnalisation et les écoles normales qui précèdent les HEP en 2000, que la religion disparaît et on commence à avoir une vraie organisation, une infrastructure fonctionnaire.
Je vous rappelle que notre sujet principal, c'est quand même les devoirs des profs. Hein.
Ouais, c'est vrai, il ne faut pas trop s'éloigner de notre objectif. Mais c'est quand même important de poser le cadre. C'était l'église qui contrôlait l'école.
Ouais, rien que là, on peut déjà voir que ça a vraiment changé. Hein, parce qu'aujourd'hui, il y a des lois dans la Léo qui obligent les profs à respecter la laïcité, donc ça colle pas trop avec l'église.
Ouais, mais le rôle de l'école à cette époque, c'était surtout de lutter contre le catholicisme, car Berne était protestante.
Oui, donc la laïcité, ça n'existait pas à l'époque. Et surtout pas dans ce genre de contexte de lutte religieuse. L'école à cette époque, c'était principalement un moyen d'étendre et de faire apprendre la religion.
Et oui, les régents qui étaient à cette époque pratiquement tous des pasteurs ne devaient faire apprendre la lecture, l'écriture et ce genre de choses uniquement grâce à des textes bibliques.
Et la seule autre chose qu'ils enseignaient, c'était la religion.
C'est vrai que la trace de la religion est restée dans l'école. La religion fait partie intégrante du cursus scolaire primaire et secondaire, et il n'y a pas longtemps encore, les classes commençaient par des prières, donc on peut pas dire non plus que ce soit spécialement laïque.
Oui, et les pasteurs étaient quand même de très bons professeurs, les seuls et les meilleurs. Former d'autres professeurs a été coûteux et très difficile.
Sans compter que la population n'avait pas trop d'intérêt à remplacer les religieux à la tête de leurs écoles.
C'est vrai, mais uniquement jusqu'au XVIIIe siècle. Après, c'est une autre histoire.
C'est à partir de cette époque que les communes ont commencé à prendre en main l'éducation et à les mettre dans les mains de maîtres souvent occasionnels ou itinérants.
Ah, je vois, donc on avait comme des profs payés par la commune, mais toujours sans école.
Ouais, et c'est dans l'époque moderne que l'instruction publique va commencer à remplacer l'ancien système d'éducation avec l'église.
Mais donc si ça devient une institution publique dirigée par l'État, alors plus de religion.
Oui, et l'augmentation du niveau et qualité requis au niveau professionnel permettra d'ajouter le calcul, la belle écriture au XVIe siècle et l'orthographe ainsi que la grammaire au XVIIIe.
Ah oui, tout d'un coup ça commence beaucoup plus à ressembler aux matières d'aujourd'hui. Hein.
Ouais, et d'ailleurs les femmes pouvaient elles aussi exercer le métier de prof, surtout chez les plus petits.
Mais tous ces profs sortaient d'où leur niveau pédagogique?
C'est simple, dans les années 1830, il y a le début des écoles normales et un peu plus tard on allongera la durée des études, ce qui donnera au métier enseignant une bien meilleure réputation.
Oui, et c'est au milieu du 19e siècle qu'apparaît les classes avec plusieurs élèves qui sont en premier tirés par leur capacité et plus tard, comme dès le jour, par âge.
Waouh, mais c'est vrai que ça commence vraiment à ressembler à aujourd'hui, hein. Mais alors dites-moi en plus sur ces profs, c'est comment leur examen ou leurs études en général?
Eh bien, dans les années 1850 à Nyon, l'État avait commencé à instaurer une vraie structure car le métier de prof est devenu presque un boulot de fonctionnaire en fait.
Pourquoi presque? Il me semble que les enseignants sont des fonctionnaires, non?
Oui, mais contrairement aux fonctionnaires, eux, ils peuvent choisir comment organiser leurs cours.
Ok, mais donc comment tu fais pour examiner quelqu'un si tu le laisses faire son métier comme il veut?
Eh bien, ce sont les établissements scolaires qui étaient dirigés par un conseil communal, en fait. Et ce conseil jugeait leurs compétences exactement comme pour les élèves.
Oui, donc la matière est enseignée, le niveau des élèves à la fin du trimestre, le nombre d'élèves qui passaient et aussi les retards, les absences et tout ce genre de choses.
Ah ça, ça a changé maintenant, il me semble, non ? Ce genre de fonctionnement, c'est plutôt celui utilisé dans une université de nos jours, non ? Maintenant, on fait plus tellement attention au retard des profs, au nombre d'élèves qui échouent.
Ouais, ils avaient malgré tout un certain programme à respecter, certaines matières ou certains sujets, même s'ils pouvaient choisir comment les enseigner, ils n'avaient pas vraiment le choix.
Ils étaient aussi examinés là-dessus.
Ah ça, c'est comme aujourd'hui, les profs ont un programme à respecter, mais ils l'organisent eux-mêmes leurs cours, et du moment qu'ils respectent le planning, ils peuvent faire d'autres choses.
Exactement, mais contrairement à maintenant où ils peuvent s'arranger sur l'année, voire sur les 3 ans, au 19e siècle, c'était tous les trimestres qu'on jugeait de leur avancée.
Ah ouais, donc pas question de prendre du retard.
Non.
Et même les directeurs subissaient ce genre de choses. Les mêmes conseils communaux examinaient et jugeaient la capacité des volontaires à tenir ce genre de rôle, et ils sélectionnaient le meilleur des candidats.
Oula, ça je suis pas sûr que ce soit encore le cas, si ?
Eh bah, j'en sais rien.
Et de qui étaient constitués les conseils communaux ?
Des adultes, des bourgeois, d'hommes d'église même parfois. Des gens qui s'occupaient de gérer la commune en question, quoi.
Oui, exactement, comme les nôtres. Sauf qu'ils n'exercent pas tout à fait les mêmes fonctions. Ils ne jugent pas l'aptitude des professeurs. Ça, c'est plutôt cantonal, et ça ne marche plus en conseil d'examination.
Waouh, mais c'est fou. Moi qui croyais que ça avait pris plusieurs centaines d'années avant d'arriver à ce qu'on avait aujourd'hui, eh ben non, en fait, c'est tout récent. Hein.
Et oui, et en plus, maintenant, tu sais comment étaient formés les profs à l'époque.
C'est vrai, maintenant, t'en connais bien plus sur l'éducation et sur ce.
On se retrouve juste après In Da Club de 50 Cent. Go, 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 shawty, it's your birthday. We gon' party like it's your birthday. We gon' sip Bacardi like it's your birthday. And you know we don't give a fuck, cause that's your birthday. You'll find me in the club, bottle full of bub. Look, mommy, I got the X, I'm getting to taking drugs. I'm into having sex, I ain't into making love. So come give me a hug, get into getting rough. You can find me in the club, bottle full of bub. Look, mommy, I got the X, I'm getting to taking drugs. I'm into having sex, I ain't into making love. So come give me a hug, get into getting rough. When I pull up out front, you see the Benz on dub. When I roll 20 deep, it's 29s in the club. Niggas heard I fuck with Dre, now they wanna show me love. When you sell like Eminem and the hoes, they wanna fuck. But homie, ain't nothing changed, hold down, G's up. I see exhibit in the cut, they nigga roll that weed up. You watch how I move, you mistake before I play up here. Been hit with a few shells, but I don't walk with a limp. In the hood, in the lady, saying 50, you hot. They like me, I want them to love me like they love pop. But holla in New York, niggas to tell you I'm loco. Yeah. The plan is to put the rap game in a choke. I'm fully focused, man. My money on my mind. Got a meal out the deal and I'm still on the grind. Now shorty says she feeling my style, she feeling my flow. A girl from what did they buy and they ready to go. Okay. I'm in the club, bottle full of bub. Look, mommy, I got the head sick, in to take the drugs. I'm in the habit sex, I ain't into making love. So come give me a hug, get in the getting rough. You can find me in the club, bottle full of bub. Look, mommy, I got the head sick, in to take drugs. I'm in the habit sex, I ain't into making love. So come so give come me a hug, get in the getting rough. My flow, my show brought me to go. That brought me all my fancy things. My clothes, my shoes. Look, nigga, I done came up and I ain't changed. And you should love it way more than you hate it. Nigga, you mad? I thought that you'd be happy I made it. I'm the cat by the bar, toasting to the good life. You that faggot ass nigga tryna pull me back, right? My junk get the pumping in the club, it's on. I'm with my eye at your bitch, if she smash, she gone. Hit the roof on fire, let the motherfucker burn. The talking about money, homie, I ain't what banks told me, cause go ahead, switch the style up. Niggas hate to let them hate them, watch the money pile up. And we can go upside the head with a bottle of bull. Then the way we fucking be. You can find me in the club, bottle full of I'm in the taking drugs. I'm in the having sex, I ain't in the making love. So come give me a hug, get in the getting rough. You can find me in the club, bottle full of bull.
Et maintenant, on va parler d'un événement important qui a débuté en début d'année.
L'invasion de l'Ukraine par la Russie.
Ouais, je me souviens de tous les débats et toutes les vidéos qui ont tourné dans les premiers jours. Il y en avait tellement.
Ouais, il y avait énormément de fake. On savait jamais quoi croire.
Et d'ailleurs, en parlant de ça, ça me rappelle cette vidéo choquante, je sais pas si vous vous souvenez, où on voyait un tank russe rouler sur une voiture ukrainienne.
Mais en fait, c'était pas tout à fait un tank russe.
Ah bon ? Donc tu es en train de me dire que c'est un tank ukrainien qui a fait ça ?
Bah, le titre était un peu trompeur. En réalité, ça s'est pas exactement passé comme ça.
Pourquoi c'était entièrement monté ?
Non, en plus, en réalité, c'était plus un accident causé par des circonstances.
En effet, une équipe des observateurs de France 24 a recherché et trouvé sur Twitter 7 autres vidéos montrant le même incident sous d'autres points de vue et ce qui s'est passé avant aussi.
Ce qui s'est passé avant, pourtant il ne se passait encore rien là-bas.
En réalité, une vidéo montre qu'un militaire russe avait pris le contrôle d'un camion de l'armée ukrainienne.
Ah, et c'est donc lui qui a roulé sur la voiture du coup.
Non, non. En fait, les vidéos des événements précédents sont pour la plupart bloquées parce qu'en fait, on voit les militaires ukrainiens tuer le soldat russe qui avait pris le contrôle du camion.
Avec des effets visuels comme des trams ou des voitures, ils ont retrouvé le lieu et la date de l'incident et ils ont pu analyser les images du tank.
Et en les regardant de plus près, ils ont pu déterminer que le tank était ukrainien car, un, il ne portait pas de Z présent sur les chars russes, c'est une sorte de signe pour qu'ils se reconnaissent entre eux et qu'ils ne se tirent pas dessus, et deux, c'était un modèle anti-aérien spécifique à l'armée ukrainienne.
Et donc le char a écrasé la voiture par accident pendant qu'il essayait d'intercepter le camion volé, c'est ça?
En fait, à partir de là, on est sûr de rien, parce qu'il n'y avait eu aucun témoignage. On pense que c'est peut-être un soldat déstabilisé par les tirs, qui a repris le contrôle du tank et qui a roulé sur une voiture.
Ok. C'est vrai que j'avais vu des soldats russes qui avaient volé des véhicules de l'armée ukrainienne, alors je pensais que c'était l'un d'entre eux, quoi.
Eh ben non, et dans ce genre de situation, on peut jamais vraiment croire ce qu'on lit ou ce qu'on entend, hein.
Ouais, c'est vrai, les gens vont à chaque fois faire en sorte d'attirer le soutien des gens.
En temps de guerre ou de d'autres situations polémiques, il faut toujours faire attention à croire n'importe quoi.
En effet, regardez toujours vos sources, essayez de les comparer avec d'autres. Il faut toujours dater et localiser les photos ou vidéos, car j'ai vu d'autres fakes sur le sujet qui reprenaient d'anciennes images de 2014 quand la Russie avait envahi la Crimée.
En gros, il faut être très réticent sur ce genre d'informations et toujours bien s'informer.
Donc ne jamais croire une seule source, encore moins selon son origine.
Mais attention, ça veut pas dire que tout est faux non plus, hein. Il faut juste bien essayer de comparer les points de vue et discerner le juste du faux.
Bon, on va s'arrêter là, c'était un peu déprimant de parler de ça. On va se relaxer et penser à autre chose avec Counting Stars de One Republic.
Lately, I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. But baby, I've been praying hard, said no more counting dollars, we'll be counting stars. Yeah, we'll be counting stars. Swing my heart across the line. In my face is flashing signs. Seek it out and ye shall find. Old, but I'm not that old. Young, but I'm not that bold. And I don't think the world is sold. I'm just doing what we're told. Kills me, makes me feel alive. Burn down this river every turn. Hope is our four-letter word. Make that money, watch it burn. Old, but I'm not that old. Young, but I'm not that bold. I don't think the world is sold. I'm just doing what we're told. Drowns me, makes me wanna fly. I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. But baby, I've been praying hard, said no more counting dollars, we'll be counting stars. Lately, I've been...
No.
Ah, elle était pas mal cette musique, je vais direct l'ajouter à ma playlist.
Ouais, je sais, j'ai une belle voix à cette époque. Hein.
Arrête de te vanter.
Et si on parlait d'un sujet plus constructif, vous voulez bien?
Ok, reprenons notre discussion de l'autre jour.
On parlait de quoi déjà?
De la naissance de l'homme préhistorique, mon gars.
Ah oui, ça me revient, l'autre groupe avait parlé des débuts du 19e siècle et de la naissance de la préhistoire.
La naissance de la préhistoire. Putain, merde. Mince, c'est un bien gros morceau.
Et oui, c'est tellement un gros sujet qu'ils n'ont même pas pu tout dire. Donc, on va devoir finir ce qu'ils ont commencé.
Ils ont dit que la découverte de la préhistoire s'était faite en
1859. 1859.
Ouais, mec, ça fait pas si longtemps que ça.
Et en plus, ils nous ont déjà introduit des noms importants comme l'aïeul, ce qui va nous faciliter la tâche.
Exact. Et maintenant que vous avez la mémoire fraîche, laissez-nous vous raconter les nouveautés du 19e siècle.
Eh bien, lors du 19e siècle, des nouvelles théories majeures sont apparues, s'opposant à la grande théorie du fixisme venant de la Bible.
L'aïeul a d'ailleurs eu un rôle important, non ?
Bah, c'est lui qui a réussi à démontrer une certaine continuité de la Terre, en fait.
En effet, grâce à des faits géologiques, il montre que l'histoire de la Bible n'est pas celle de la Terre. Il n'y aurait pas eu de déluge. C'est pour ça qu'il estime que l'âge réel de la Terre est supérieur à ce que prétend la Bible.
Donc on serait passé à combien d'années ?
Eh bien, l'aïeul situe l'ère primaire à environ 240 millions d'années, ce qui semblait totalement absurde à cette époque.
Ah oui, car la Bible estimait l'âge de la Terre à seulement 6 000 ans, il me semble.
Cette nouvelle notion de continuité a permis à d'autres scientifiques, notamment des biologistes, à pouvoir émettre l'idée de l'évolution chez les espèces.
Et comment est-ce qu'ils ont pu trouver ça ?
Bah avec la génétique, mon gars.
Et oui, grâce à Darwin, Mendel et De Vries, on a compris que le surnaturel n'existait pas vraiment, et on a donc glissé vers le naturel. Les gènes des espèces pouvaient donc se diversifier suite à des mutations aléatoires.
Malheureusement, le hasard était très compliqué à être accepté, malgré les vraies preuves scientifiques.
À ce stade-là, on sait qu'il y a des changements, mais on ne connaît pas réellement leurs modalités.
Mais pourquoi les gens continuaient à croire le récit de la Genèse alors qu'il y avait des preuves concrètes qui étaient publiées ?
Eh bien, c'est juste que le peuple était beaucoup trop attaché à leur religion. Les gens n'arrivaient pas à admettre des faits remettant en cause la Bible. Il niait chacune des découvertes.
Eh oui, les nouveautés étaient accueillies avec beaucoup de sceptisme, voire même de la violence dans certains cas.
Et même que des gens reconnus inventaient carrément de fausses histoires pour décrédibiliser tout ça.
Ah, mais ouais, je m'en souviens, j'avais lu un article dessus.
Et il parlait de quoi ton article ?
C'était Monsieur Bucheland qui avait trouvé un squelette entouré de bijoux d'ivoire, mais il refusait de croire que l'homme était si ancien, donc il a décidé qu'il s'agissait d'une prostituée datant des Romains.
Ça, c'est du beau mensonge.
Mais en fait, comment pouvait-il être crédible même ?
Eh bien, comme je l'ai dit, c'est simplement la puissance de la religion sur l'ancienne société.
Mais du coup, de quelle manière est né le terme d'homme préhistorique ?
C'est Monsieur Boucher de Perthes qui l'aurait élu.
Mais pourtant, Boucher de Perthes n'était pas un vrai scientifique, pas vrai ?
Bien vu, à la base c'était juste un ancien douanier qui adorait collectionner de nombreux silex.
Et l'avantage c'est que ces silex ne venaient certainement pas des mêmes hommes.
Ah, donc les fixistes n'ont plus d'excuses.
Oui, c'est une énorme différence. Cela va d'ailleurs le pousser à déclarer publiquement le problème de l'ancienneté de l'espèce humaine.
Et d'ailleurs, devinez qui va pouvoir donner du poids aux interprétations de Monsieur Boucher de Perthes ?
Alors là, aucune idée.
Honnêtement, je sais pas non plus, mais j'imagine que tu vas nous le dire.
Eh bien, il s'agit de l'aïeul.
Ah, mais en plus, c'est un grand scientifique.
Et ouais, exactement. Le géologue a donc réussi à dater les objets trouvés du douanier.
Et il date de quand ?
Dans environ 100 000 ans.
Waouh, c'est vraiment vieux ça.
Extrêmement vieux, oui. C'est donc comme ça que l'aïeul a pu remplacer la notion d'homme antédiluvien ou homme fossile par
l'homme préhistorique.
Et grâce à ce nouveau terme, le cadre d'interprétation des découvertes précédentes n'est plus du tout le même.
Ah bah là c'est sûr, tous les ossements ont pris d'un seul coup beaucoup plus d'importance.
Exactement, et c'est cela qui nous a permis de nous baser sur les squelettes pour les nouvelles découvertes.
Ah, maintenant je comprends comment on en est arrivé là.
En tout cas, merci d'avoir été présent avec nous, on s'est bien amusé. C'était Noah, Gabriel, LMR et Xavier. On se retrouve bientôt, mais en attendant, restez branchés pour écouter la suite de notre enquête préhistorique réalisée par nos camarades.
Sur Radio Bus, vous écoutez la radio la plus rapide. Radio Gymnase de Nyon.